Aujourd'hui avec le père Henri Lefer.
Quatrième grand privilège de la Vierge Marie qui nous est familier ici à Lourdes, c'est celui de l'Immaculée Conception. Notre-Dame va se faire connaître à Sainte Bernadette le 25 mars 1858 en s'appelant de la sorte. La réalité de cette vérité a été vécue par l'Église depuis des siècles, mais le dogme, la définition de cette vérité, est plus tardif. Le pape Pie IX proclame solennellement ce dogme de l'Immaculée Conception dans sa bulle Ineffabilis Deus le 8 décembre 1854. Je cite le pape. La doctrine qui enseigne que la bienheureuse Vierge Marie, dans le premier instant de sa conception, a été, par une grâce et un privilège spécial de Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée et exemptée de toute tache du péché originel, est révélée de Dieu et par conséquent doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. La Vierge Marie elle-même attend que l'Église se prononce infailliblement, par l'intermédiaire du souverain pontife, donc le pape Pie IX, pour se manifester comme telle à Sainte Bernadette. C'est donc une vérité de foi que nous naissons héritiers du péché originel après la faute de nos premiers parents. Nous sommes dès lors séparés de Dieu. Notre amitié avec lui est brisée, le lien filial est coupé. Dans la suite de cette cassure, il y a les blessures du péché originel. L'ignorance, la malice, la faiblesse et la concupiscence. Marie est exempte du péché originel dès sa conception. Il n'y a jamais eu en elle cette hérédité du premier péché. Elle est, dès le premier instant, dans l'état de justice originelle. Elle est indemne des blessures dont héritent tous les hommes, en particulier la concupiscence, et surtout elle vit dans une communion très intime à la vie de la Sainte Trinité. Bien que fille d'Adam, on dit même que Marie est la nouvelle Ève, elle peut transmettre au Christ une humanité parfaite. Marie est enrichie dès le premier instant de sa conception d'une sainteté éclatante, absolument unique. Elle est pleine de grâce, selon les paroles de l'ange. Ce mot grec signifie l'acte d'aimer d'un amour stable, parfait, exceptionnel. À tous les instants de sa vie, Marie verra Dieu en Jésus. Elle dit toujours oui, fiat, à toute volonté de Dieu, dans une volonté qui n'est entravée par aucune mauvaise habitude. Elle est préservée du péché originel, mais aussi de tout péché personnel. Saint Jean-Baptiste, qui est une grande figure de cette période de l'Avent, est né libéré du péché originel. Il a été conçu avec, comme héritier d'Adam. À la visitation, Élisabeth a la vue de sa cousine Marie sans son sein tressaillir. Par ce contact avec le Christ, Saint Jean-Baptiste est purifié de son péché. On pourrait dire qu'il est comme baptisé. Marie, elle, a été rachetée par le Christ de manière rétroactive avant la Passion. Elle a été non pas guérie, purifiée, comme Saint Jean-Baptiste a pu l'être, comme nous, après notre baptême, mais elle a été préservée avant qu'elle n'entre dans le monde. Elle est donc l'Immaculée. Elle a bénéficié de la grâce de la rédemption comme tous les hommes, mais par avance. Ce dogme n'est pas explicite dans la Bible, mais on trouve des paroles qui l'indiquent. Verset 15 du chapitre 3 de la Genèse, il est dit « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Entre ton lignage et le sien, il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » Et on a vu ces paroles de l'ange à Marie qui lui dit « pleine de grâce ». Le verset du proto-évangile, de cet évangile de la Genèse, comme on l'a appelé, parle d'une inimitié. Dans le texte hébreu, le terme est au pluriel. Il s'agit de ce qu'on appelle un pluriel d'intensité ou de radicalité. La vraie traduction devrait donc dire « Je poserai une inimitié absolue, radicale ou totale entre toi et la femme ». Cela montre bien que le démon n'a absolument aucune emprise sur Marie. Pie IX s'appuiera sur ce verset pour proclamer ce dogme. Cette vérité de l'Immaculée Conception, qu'elle n'a pas eu le péché originel, ni qu'elle a commis de péché personnel, ne veut pas dire, pourtant, que la Sainte Vierge ne puisse être tentée. Le Christ lui-même a été tenté par le démon. Marie a même subi la plus grande tentation qui soit, la plus grande attaque au pied de la croix. Ce fut une attaque contre la foi, la vertu première et fondatrice de toutes les autres. Au Golgotha, Marie est dans la contradiction absolue. D'un côté, elle sait que son fils est le fils de Dieu, jusque dans sa chair, puisqu'elle l'a enfanté virginalement. L'ange lui a dit, et le Christ a prouvé maintes fois sa divinité, et notamment à Cana. Dans le même temps, elle a en tête cette parole divine, car inscrite dans la Bible, c'est au livre des Nombres, « Maudit de Dieu, celui qui meurt sur le bois ». Il y a donc une contradiction absolue en apparence. Son fils est Dieu, mais parce que mourant sur le bois de la croix, il est maudit de Dieu. Comment Dieu peut-il donc être maudit de Dieu? C'est une contradiction totale au niveau de sa raison, et le démon veut s'engouffrer dans la faille. Alors, Marie agit par la foi pure, elle reste humble devant ce mystère qu'elle accepte comme tel. Pour nous, ce mystère s'est éclairé par la suite. Le Christ a assumé nos péchés, il les a portés sur la croix. Ce sont donc nos péchés qui sont maudits de Dieu. Saint Paul dira en ce sens, le Christ, en sa croix, a mis à mort la cédule de notre condamnation. Donc, notre Seigneur, se chargeant de tous nos péchés, il les a tués sur la croix. La grande différence entre la Vierge Marie et nous, quand nous sommes tentés, c'est qu'en nous, il y a un ennemi intérieur. On est tenté par l'extérieur. D'ailleurs, dans l'Écriture sainte, il est bien dit, ce n'est pas ce qui sort de l'homme qui le souille, mais ce qui entre. En toute personne, il y a un complice intérieur. On l'appelle l'inclination, la concupiscence. Nous sommes portés à répondre à notre plaisir, notre égoïsme, notre confort. Marie, sans ses blessures du péché originel, sera tentée extérieurement, mais n'aura pas ce complice intérieur, cette inclination au mal. On pourrait penser que l'âme de Marie ressemble à l'âme d'un bébé juste après son baptême. Cette âme est en effet remplie de la grâce sanctifiante et purifiée du péché originel. En réalité, l'âme de Marie, dès sa conception, est bien plus belle que celle d'un baptisé, parce que le baptisé garde dans son âme les tristes conséquences du péché originel, spécialement cette concupiscence qui nous tire vers le bas et nous pousse chaque jour au péché, alors que l'âme de Marie a été préservée non seulement du péché originel, mais aussi de ses conséquences, si bien qu'elle ressemble davantage à l'âme d'Adam et Ève au paradis terrestre. On pourrait objecter que la Sainte Vierge a connu la souffrance. Or, la souffrance est une conséquence du péché. Elle n'existait pas au paradis terrestre. Il semblerait donc que l'Immaculée Conception a connu les conséquences de la faute originelle. Il faut répondre que, chez la Mère de Dieu, la capacité de souffrir n'était pas un effet ou une punition du péché. Elle était, comme chez le Christ, une simple conséquence et une nécessité physique de la nature humaine. Certes, Dieu aurait pu accorder à Marie comme à Adam et Ève le don préternaturel d'impassibilité. Il ne l'a pas voulu, afin que Marie puisse souffrir au pied de la croix et coopérer à l'œuvre de notre rédemption.